France Inter, le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Bonjour Stéphane Le Foll.
Bonjour.
Maire socialiste du Mans et président de Le Mans Métropole, ancien ministre de l'Agriculture en duplex de France Bleu Maine. Une question d'abord à l'ancien ministre de l'Agriculture à propos de ce lot de viande avariée découverte en France en provenance de Pologne. La loi française impose à chaque maillon de la filière de la filière viande de contrôler la traçabilité des produits, la qualité. Cette dernière affaire révèle quel type de dysfonctionnement, Stéphane Le Foll?
Écoutez, moi j'ai eu affaire aux viandes dites de cheval avec les lasagnes à l'époque. On avait parfaitement identifié la filière. C'était des traders des Pays-Bas avec des acheteurs français. Et là encore des grossistes qui veulent acheter de la viande à pas cher, font des achats en gros. Alors que la viande, ça reste un produit cher et qu'il faut que la filière française, avec ce qu'on a mis en place, Viande de France, avec ce que j'avais obtenu pour la traçabilité, même dans les produits transformés, soit extrêmement rigoureuse. Mais qu'à chaque fois qu'il y a des contrôles à faire, que les services vétérinaires ont à travailler pour pouvoir contrôler, il faut le faire avec le souci de l'efficacité, même si tout ça s'est passé en Pologne, et que là, la Pologne a une responsabilité. On peut pas laisser partir ou avoir dans des abattoirs en Pologne des abattages de vaches qui, selon ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, étaient malades. C'est parfaitement inadmissible et surtout contraire à toutes les règles sanitaires.
Responsabilité polonaise, dites-vous, responsabilité française aussi, parce que
oui,
les agences...
de grossistes qui ont acheté de la viande en faisant, si j'ai bien compris, des mélanges avec différentes viandes. Et ça, c'est une responsabilité de professionnels en France qui mettent en danger l'ensemble de leur propre filière.
Est-ce que les contrôles des agences de répression des fraudes, la DGCCRF localement, est-ce que ces contrôles sont toujours efficaces sur le terrain?
Mais les contrôles sont efficaces parce qu'on en fait un maximum, avec des moyens bien sûr, ou alors on dit qu'on contrôle tout, mais c'est pas possible. Donc s'il n'y a pas un autocontrôle, s'il n'y a pas une responsabilité de chacun, on pourra jamais assurer le 100% contre tous ces personnes qui veulent faire de l'argent sur ces sujets. C'est bien ça le sujet, veulent faire de l'argent.
Avec des traders en bout de chaîne.
C'est comme la voiture, vous savez, et les accidents, il y a plein de gendarmes, il en faut, il y a des contrôles, mais ça n'empêche pas qu'il y a des accidents ou des gens qui ne respectent pas la limitation de vitesse. Mais là, c'est important de rappeler la responsabilité de chacun.
En même temps,
bien sûr, celle de l'État.
On a aussi entendu que la DGCCRF n'avait plus forcément autant de moyens qu'auparavant pour faire des contrôles efficaces.
Oui, c'est la DGL en l'occurrence là, qui fait des contrôles sur la santé et sur l'alimentaire. Que la DGCRF. Bien sûr qu'on peut mettre plus de moyens, mais il faut bien réfléchir, là aussi et là encore, à l'enjeu. On ne pourra pas tout contrôler, on est bien d'accord. Donc si on ne peut pas tout contrôler, il faut que chacun assume sa responsabilité. Et les grossistes qui ont joué le jeu que je crois ils ont joué, eh bien, doivent être aussi rappelés aux règles. Et puis deuxièmement, je vous rappellerai que suite aux lasagnes et à l'affaire des lasagnes, aujourd'hui, il y a des gens qui sont devant la justice et que j'espère que la justice sera extrêmement sévère par rapport à ceux qui trichent.
L'actualité des Gilets jaunes à présent, Stéphane Le Foll. Après les dégradations il y a une semaine au palais des congrès de votre ville du Mans, vous aviez demandé aux Gilets jaunes de prendre leurs responsabilités pour éviter les débordements. Comment avez-vous vécu hier ce 12e acte des Gilets jaunes au Mans?
Au Mans, ça s'est passé avec une prise de responsabilité, là aussi. J'avais dit aux Gilets jaunes qui étaient venus me voir le lendemain et puis... et d'autres que j'avais vus le lundi suivant, que à chaque fois qu'une manifestation emmène tout un tas de gilets jaunes, légitimement mobilisés pour revendiquer, mais avec le risque en fin de journée d'avoir les débordements qu'on a eu deux fois, hein, Le Mans, c'est deux fois des débordements hein, sur les 12 samedis, hein, c'est pas comme dans d'autres villes. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Vous venez dire « on est débordé », mais si vous êtes débordé, il faut savoir arrêter de manifestation. Quand les Gilets jaunes sont venus au Palais des Congrès, la manifestation avait commencé à 10h le matin. Il était plus de 17h l'après-midi. J'aurais dit, écoutez, vous aviez eu le temps de manifester. Pourquoi vous êtes tous venus au Palais des Congrès? En faisant le geste de venir, j'aurais pu, et j'ai rencontré des Gilets jaunes, vous avez amené avec vous des gens qui avaient d'autres objectifs. hein, qui voulaient à tout prix empêcher quelque chose et casser. Bon, donc ça, ça peut pas être accepté. Et donc il se trouve que hier, au Mans, ça s'est passé correctement. Il y a eu des manifestations, mais il n'y a pas eu de dégradation.
Une proposition de loi anti-casseurs en discussion au Parlement avec des préfets qui pourraient interdire de manifester. Est-ce que ça aurait pu éviter les saccages dans votre ville la semaine dernière ?
Non, d'abord, il n'y a pas eu de saccage.
Pardon, abîmer le centre.
Mais tous les mots ont
vous avez raison.
Sens.
Vous voilà, avez raison.
Voilà. Donc là-dessus, voilà. Et puis deuxièmement, non, je ne crois pas. Parce que j'ai vu aussi que le samedi précédent, le tribunal, le procureur avait pris des décisions sur des comparutions immédiates de casseurs qui ont été interdits de manifester. Ils avaient été pris sur le fait en train de casser, ils ont été condamnés et ils ont été interdits de manifester. Et d'après ce que j'ai vu sur ce qui a été demandé, c'est plus de 2 ans d'interdiction de manifester dans la Sarthe. Donc il y avait déjà des lois qui permettaient d'agir rapidement. Maintenant, il faut aussi que tout le monde, c'est ce que j'ai dit, fasse comprendre qu'il faut faire baisser cette tension. Et que les violences, c'est pas la solution aux problèmes qui sont posés.
Pour résoudre les problèmes, il y a un débat national, 500 000 contributions recensées, 3 000 débats. Stéphane Le Foll, ce débat...
Pas de bol, hein.
Comme vous dites. Est-ce que vous l'organisez, ce débat, avec enthousiasme dans votre ville du Mans ?
Moi, je l'ai dit, je facilite l'organisation. On a ouvert une salle pour que les Gilets jaunes aient un lieu pour pouvoir déposer des contributions, des cahiers pour pouvoir écrire pour les gens qui le souhaitent. Il y aura probablement une discussion ce soir pour savoir s'il y aura un débat qui sera organisé. Moi, je suis là pour faciliter le débat, mais je n'y participerai pas. J'ai bien compris qu'à la sortie, d'après ce que j'ai cru comprendre, quand j'ai vu ce qu'a dit il n'y a pas longtemps le président de la République, si Gilet jaune, c'est être pour que le travail paye et pour avoir moins de parlementaires, je suis Gilet jaune. Bon, si c'est ça le débouché politique, j'ai compris que moi, j'y allais avec beaucoup de prudence, beaucoup de recul, et autant je facilite le débat parce que je pense qu'il faut aussi trouver des lieux de dialogue et de discussion, autant je n'y participe pas parce que...
C'est l'impartialité d'Emmanuel Macron que vous remettez en cause dans le grand débat ?
Non, c'est le fait que c'est lui qui a en main le débouché.
Oui, donc son impartialité qui est en cause selon vous ?
Ben, par définition, puisque c'est lui qui va décider à l'issue de ce débat de... La méthode qui sera utilisée pour trancher un certain nombre de questions et les questions qui vont être tranchées avec des solutions, bon, par définition, c'est lui.
Question de Patricia Martin. Donc.
Stéphane Le Foll, pour contrebalancer la centralité du pouvoir, vous proposez un manifeste des socialistes français et européens. Et on se dit, en voyant ce qui se passe en ce moment dans ce débat, que le pacte présidentiel de Ségolène Royal en 2007, au fond, avait un temps d'avance.
Ah, nous avons perdu
le pacte présidentiel de Ségolène Royal en 2007.
C'était l'implication citoyenne.
Oui, l'implication.
Il y avait eu 6000 débats en tout à travers la France. Ça ressemble quand même étrangement à ce qui se passe en ce moment avec ce débat national.
Mais qu'est-ce que dit Emmanuel Macron quand il a construit son programme, soi-disant, il a fait aussi organiser des débats partout en France. C'est bien ce qu'il a revendiqué pendant la campagne présidentielle.
Tout à fait.
Est-ce que ça change au bout du compte la réalité de l'exercice du pouvoir ?
Et le manifeste
ce côté, attendez, ouais. Juste, ce côté sur le participatif, moi je l'entends, hein. Mais d'abord, en démocratie représentative, et dans une démocratie organisée, il y a aussi la démocratie représentative, les parlementaires, il y a toute la démocratie sociale, il y a toute la démocratie associative, et puis ensuite, il y a comment on fait participer les citoyens. Moi, plutôt que les faire participer, c'est aussi les impliquer. Parce que c'est pas simplement la participation qui compte, c'est l'implication.
Bah c'est le but des
débats.
Dans
ce débat, il faut structurer les choses. Et le côté d'annoncer le participatif comme étant la solution, non. La solution, c'est la structuration et l'organisation de la démocratie.
Et selon le JDD, ce matin...
On ne fera pas croire qu'on substituera l'ensemble des lieux de médiation démocratique avec simplement l'organisation de la participation.
Et ce matin dans le JDD, Emmanuel Macron, c'est ce que dit le JDD, hein, Emmanuel Macron serait presque converti au scénario d'une consultation, un référendum qui serait couplé avec les élections européennes le 26 mai, notamment des questions sur les institutions, sur la fiscalité, mais sans retour a priori sur l'ISF. C'est une bonne idée de coupler les deux scrutins ?
Bah écoutez, ça va être quand même très particulier d'avoir un débat européen avec un Parlement européen dans le contexte de la montée des nationalismes qu'on connaît, avec un référendum, si j'ai bien entendu aussi les hypothèses, c'est-à-dire avec des questions multiples. Le couplet, c'est dans l'intérêt, là encore, d'Emmanuel Macron pour engager les électeurs en même temps qu'ils vont venir sur le référendum à voter au niveau des européennes, et j'imagine pour les listes qu'il pourra présenter. Bon, c'est des confusions auxquelles il faut faire très attention. La clarté dans ce débat mériterait quand même qu'il y ait un débat européen, et puis ensuite qu'il y ait sous une forme. Et c'est là que je le dis, c'est pour ça que autant je facilite l'organisation des débats, autant je n'y participe pas, sous une forme qui sera de toute façon décidée par Emmanuel Macron. Moi, ce que je propose en tout cas, c'est ce qu'a proposé Laurent Berger, c'est qu'il y ait à minima une organisation d'une vraie conférence avec l'ensemble des partenaires sociaux.
Un Grenelle social, sociétal et fiscal.
Oui, un Grenelle social sur les grandes questions du niveau de vie et de l'organisation de la démocratie, où les acteurs, je l'ai dit, de cette démocratie, puissent aussi participer. Après, il y aura un vote, il y aura un choix, c'est un autre sujet.
Dans un instant, les élections européennes de mai prochain. On évoquera aussi l'inventaire difficile à faire du hollandisme. On en parlera avec Patricia Martin. À tout de suite, il est 8h31.
Tous les dimanches matins à 11h sur France Inter,
on va déguster
François-Régis Gaudry.
Navel, amer, sanguine, maltaise, valencia, le plus célèbre des agrumes, s'invite à la table dont va déguster.
1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 11 belles oranges et rien d'autre.
Du jus à la pulpe et du pépin à l'écorce, on passe à l'orange.
On va déguster.
Tout à l'heure, sur France Inter, à partir de 11h.
Merci d'écouter France Inter.
France Inter. Le 6-9 du week-end.
Stéphane Le Foll, le maire du Mans, président de Le Mans Métropole, ancien ministre de l'Agriculture, invité ce matin. Patricia Martin.
Une liste gilet jaune aux européennes, Stéphane Le Foll, ce serait quelque chose pour vous de respectable ?
Oui, je l'ai dit, respectable au sens où la démocratie, c'est aussi un moment où on va devant les électeurs. Après, vous avez bien compris que ce qui va caractériser les européennes, c'est l'enjeu d'un Parlement européen en mesure de décider des choix et de faire des choix dans le contexte qu'on le sait à l'échelle européenne. La question portée par les Gilets jaunes est plus une question liée à des choix politiques nationaux, même si j'entends qu'il y ait des dimensions européennes. Donc je pense que l'adéquation entre l'élection européenne et une liste Gilets jaunes, par rapport à ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes, n'est pas évidente. Mais l'idée que des Gilets jaunes puissent vouloir participer à des élections, c'est aussi une manière de se mettre dans un processus démocratique.
Et pour l'instant, ce ne sont que des embryons de liste parce qu'il faut de l'argent, il faut beaucoup de contraintes,
c'est compliqué,
pour mener une campagne.
Et puis vous savez, au sein même des Gilets jaunes, c'est pas si simple non plus.
Il y a plusieurs listes absolument qui se divisent.
C'est aussi compliqué qu'au PS, au sein des Gilets jaunes, vous pensez ?
C'est pourquoi ? Parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup de doutes et de difficultés à y voir clair. Donc, s'il y a un message que j'ai à faire passer, c'est que dans ces périodes-là, il faut chercher justement à éclairer le débat, à lui donner des perspectives, à lui donner un sens, et surtout pas à noyer ou à brouiller les pistes. C'est ça le sujet.
Est-ce qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, incarne le mieux aujourd'hui un élan d'une liste, à la tête d'une liste socialiste ?
C'est pas un problème
d'incarnation ?
C'est pas un problème d'incarnation ni de personne. Il y a un problème, je vous l'ai dit, de sens à donner à l'engagement aujourd'hui. Ce qui pêche et ce qui pèse beaucoup, c'est qu'on a tout ramené à des questions de personne. Et l'élection présidentielle y est pour beaucoup. À force de personnaliser l'enjeu politique pour un grand pays comme la France, on ramène toutes les discussions, en grande partie, sur des questions de personne. Alors qu'il y a aussi, et j'en suis là parfaitement témoin, au vu de l'expérience qui est la mienne, des questions qui font qu'on structure un débat politique, ou on le structure pas. On le déstructure, ou on le construit.
Enfin,
c'est ça le problème.
Il y a une personne qui le structure ou qui ne le structure pas.
L'incarnation politique, on en parlait ici même.
Mais l'incarnation, je regarde ce qui s'est passé hier, par rapport à ce qu'a le discours d'Olivier Faure. Et on me dit, et il dit, qu'il va envoyer donc les 10 propositions qui ont été discutées avec Place Publique.
Donc là, je regarde le parti de Raphaël Glucksmann.
Voilà, le parti, vous avez très bien dit, le parti de Raphaël Glucksmann. C'est-à-dire que le parti de Raphaël Glucksmann, qui veut rassembler la gauche pour éviter son émiettement, commence par recréer un parti. Mais c'est dont acte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les propositions. Je regarde, proposition 1, pour faire passer l'écologie avant l'austérité. Bon. C'est sûrement la question posée par le déficit budgétaire à 3%. C'est même pas une proposition pour porter un message, pour donner un objectif. Moi, j'avais proposé dans le débat du PS, à l'intérieur du PS, il y a fut un temps, 500 milliards pour l'Europe pour pouvoir assurer les investissements de la transition énergétique. Pierre Larrouturou et Jean Jouzel font une proposition sur une banque dédiée à l'investissement sur la transition énergétique. Ça, c'est des propositions. Ça, c'est des enjeux. De dire que on va faire passer l'écologie avant l'austérité, c'est un débat interne à la gauche sur la question du déficit budgétaire qui n'a pas de sens, qui ne donne pas d'objectif. Donc c'est ça que je conteste, moi.
Stéphane
c'est
Le
pas
Foll.
Un problème de personne, c'est un problème de fond.
Il nous reste quelques temps, quelques minutes pour évoquer l'inventaire du hollandisme. Olivier Faure, le leader du PS, il vient de le faire cette semaine, une sorte d'inventaire du quinquennat Hollande, dont vous avez été lundi ministre. Vous avez estimé que ce n'était pas le moment. Ce sera quand le moment de l'inventaire, Stéphane Le Foll ?
Mais toute défaite dans les élections, et je m'en souviens, les défaites de 93, les défaites de 2002, ont conduit le Parti Socialiste à faire un inventaire, et Jospin, c'est cette formule hein, qu'il avait eue sur les années de François Mitterrand, à faire des inventaires tout de suite, au moment où l'échéance vient d'être passée, et où on doit tirer un certain nombre de conclusions. Le faire un an et demi, 18 mois après, à la veille d'élections nouvelles, plutôt que de se concentrer sur les objectifs qu'on se fixe, oui, je dis que c'est une erreur.
Bah, c'est pas fromage de dessert, on peut aussi faire un inventaire et se servir de cet inventaire pour faire des propositions, non ?
Mais vous pouvez toujours vous servir de l'inventaire pour faire des propositions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'inventaire, on n'a pas de proposition.
La loi travail.
Donc je vous renvoie à votre propre question.
La loi travail,
moi, je veux bien.
Déchéance de nationalité, est-ce que ce n'a pas été les deux grandes causes de rupture avec votre électorat traditionnel socialiste ?
Mais qu'on dise, j'ai dit la loi travail, je l'ai dit, c'était une erreur. Et je l'ai dit à l'époque. Malheureusement, je n'ai pas été entendu. Quand j'avais dit aussi à l'époque et que j'avais lancé EO la gauche, qu'il fallait renouer et parler à notre électorat, alors que Manuel Valls était sur les gauches irréconciliables. J'étais pas d'accord, j'ai été battu, et tout ça a été jusqu'à son terme. Oui, il y a eu des erreurs.
Et aujourd'hui, les gauches sont réconciliables aujourd'hui ?
Et ça a été dit, et je l'ai dit moi-même. Mais répéter qu'on a fait des erreurs, et 18 mois après, en être encore qu'à faire le constat qu'on a fait des erreurs, franchement,
vous pensez que François Hollande aurait dû se représenter parce que vous avez raconté comment.
Non, mais moi je veux pas revenir. Mais attendez, qu'est-ce que François Hollande aurait dû se présenter ?
Aurait
moi,
dû
je l'ai
se
dit,
représenter.
Oui, se représenter. Je l'ai dit au moment de sa décision que j'étais pour qu'il se représente. Il l'a pas fait. Je vais pas ressasser cette question.
Et Bernard Cazeneuve, on parlait tout à l'heure. Vous disiez que les hommes, après tout, avaient certainement moins d'importance que les projets. Bernard Cazeneuve, à la tête du PS, ça pourrait être une solution.
Vous avez posé dans votre question la réponse. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que pour moi, si on revient uniquement là, aujourd'hui, à la question de savoir qui, et qu'on ne sait pas pourquoi, je veux bien, moi, qu'on fasse ça. Hein.
Projet,
vous avez parlé de mon manifeste,
le projet
de
d'abord.
La social-écologie, ou de l'éco-socialisme, c'est un paradigme nouveau. La crise des gilets jaunes et la grande crise écologique ont montré que si on n'y prend pas garde, il peut y avoir une fracture dans la société.
Merci.
Qui fasse échouer les deux. Donc la grande question politique qui est posée, c'est comment on réconcilie les deux.
Merci.
Voilà, c'est
Stéphane
la grande question.
Le Foll, et puis à propos d'Olivier Faure, on lira ce matin dans le JDD cet article. Olivier Faure, ascenseur pour l'échafaud dans la crainte des Européennes. Encore un moment, monsieur le bourreau. Voilà, le PS qui n'attend pas. Vous attendez quel score, en fait, socialiste aux Européennes ?
Mais ça, le score aux Européennes, c'est une ligne, une tête de liste et une ligne, un projet. L'indéfinition de ce que l'on veut est la pire des choses pour pouvoir gagner une élection.
Merci Stéphane Le Foll et bonne journée au Mans où vous
merci
êtes. Et merci aux équipes de France Bleu Maine. Il est 8h39.